Donc, Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons étudier à la mémoire de Eliyahu Chaim ben Rina Kuka, de Moshe Roger ben Emma Simcha, de Claudine Hamisha bat Henriette, et de Georges Shalom ben Henriette Kuka. Bezrat Hashem, Tenish Matam Tsoa Bitsoa Chaim. Et tous ceux qui ont besoin de refoua, aussi Bezrat Hashem pour leur refoua Shlema. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous enlève cette magefa pour qu'on puisse le servir tranquillement et dévoiler son nom dans le monde. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Shehakol Nihya Midvaro. Alors aujourd'hui notre sujet sera celui de la possibilité en fait de sortir de cette enclave de la mort. C'est un sujet qui est énorme, primordial, et à tel point que nous allons étudier en fait la paracha de la semaine, qui est la paracha de Choukat, et qui parle de cette fameuse vache rousse, la para Adouma, et de ses possibilités, justement, de purifier, de sortir, de s'en sortir de la notion de mort dans le monde. Ce qui est exceptionnel, c'est que lorsque la Torah parle de la para Adouma et de toutes ses lois, elle ne dit pas « voici les lois concernant cette vache ». Elle parle d'une manière global, comme si le sujet de cette vache rousse, c'est en réalité le sujet, le fondement de toute la Torah. Autrement dit, je peux dire que la vache rousse est égale à tout ce que la Torah veut m'enseigner, d'une manière générale. Et si j'arrive à comprendre les secrets qui se trouvent dans cette vache rousse, je peux comprendre en fait tous les secrets lié à la Torah. D'où est-ce que je tire cet enseignement? C'est tout simplement, lorsque la Torah vient parler de cette vache, elle ne dit pas « voici les lois concernant la vache ». Elle dit « Zot Chukat HaTorah ». Voici la loi profonde, secrète, incompréhensible, mais qui est de toute la Torah. Tout entière. Alors qu'elle va parler apparemment d'un sujet bien précis. Donc ce décalage entre le sujet de la vache et l'expression de la Torah, qui utilise un langage englobant, vient réveiller chez moi cette notion de complétude inhérente à la vache. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais parler de la para Adouma, de la vache rousse, je vais parler en réalité du fondement même de la Torah tout entière. Donc c'est la racine, c'est la source de tout. La Torah ne peut pas se tromper en utilisant un mot qui n'est pas adéquat. Et donc elle dit « Zot Chukat HaTorah ». Voici tout ce qui concerne la Torah. Alors qu'on va parler d'une vache. Et il va falloir comprendre pourquoi. Alors le pourquoi je voulais un tout petit peu énoncer, c'est qu'en réalité il s'agit là de la purification de cette notion qui est terrible dans notre monde, la mort. Ça voudrait dire qu'en réalité le véritable sujet qu'Akadosh Baruch Hu veut nous enseigner, c'est qu'il est possible de dépasser la notion de mort. Que la notion de mort, ce n'est pas elle qui est gagnante. Ce n'est pas possible. La mort ne peut pas être le grand gagnant de ce monde. Car si c'était le cas, Chas v'Shalom, ça voudrait dire que la mort est plus forte que le Dieu de la vie, donc que Dieu lui-même. Comment est-ce possible que Dieu vivant, Elohim Chaim, soit plus faible, et qu'il y ait une force dans ce monde qui contrarie sa lumière, qui contrarie sa vie. Est-ce que c'est possible de dire que le maître de la vie est plus faible qu'un élément dans ce monde qui est la mort? Est-ce que la mort est un idéal? Malheureusement, on a tendance, et aussi dans certains endroits dans le judaïsme, à croire que c'est le cas. Que la mort est un idéal en soi, puisque c'est après la mort qu'on va rejoindre l'infini, béni soit-il, et qu'on va rendre des comptes, et que de toute façon, tout le passage dans ce monde ne sert à rien si ce n'est que de préparer notre départ. Vous avez sûrement déjà entendu ça. Si c'était le cas, ça voudrait dire qu'en réalité, ce monde est beaucoup plus fort que le roi même de la vie. Je vous rappelle qu'il n'y a pas plus loin que la semaine d'avant la semaine dernière, il y a 2 semaines, on a parlé des explorateurs qui ont justement énoncé les choses telles que je viens de les dire. Ils ont dit qui chazak hu mimenu, que le monde d'en bas, que le monde dans lequel on vit est plus fort que Dieu. Rashi ramène ça sur place. Itkavnu les gavois, ils n'ont pas dit ça en croyant que les hommes de la terre d'Israël étaient plus forts qu'eux-mêmes, que les explorateurs, non. Ils sont aussi plus forts que Dieu, à tel point que Dieu lui-même ne peut même pas rentrer sa main dans cet endroit de peur qu'on l'avale. Regardez jusqu'où ils ont été dans leur développement de peur de la matière, et surtout lorsqu'il s'agit de Eretz Israël, où pour eux, ici c'est un élément matériel tellement gigantesque que même Dieu ne peut rien contre cette sphère-là. Et qu'il a peur lui-même, Dieu, de rentrer, intervenir dans ce monde sur la terre d'Israël, parce qu'ici habitent des géants qui sont beaucoup plus forts que lui. Et même la Torah donne le nom de ces géants. Incroyable. Achiman, Sheshai et Talmai. 3 géants. Et la Gemara, dans le traité de Sota, à la page 34, va nous dire quels sont ces géants et à quoi me sert-il de connaître leur nom. Mais en réalité, ce sont 3 codes. Ce ne sont pas des noms seulement de géants. Achiman, c'est le géant de la société humaine. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Achi, mon frère. Le 2e géant, c'est le géant de l'économie. Il s'appelle Talmai. Et la terre d'Israël, lorsqu'on en laboure, on dit que nous faisons des sillons sur la terre, ça s'appelle Telamim, Telamim, comme le nom de ce géant. Le 3e géant est un géant de sécurité, d'armée, de défense, puisqu'il s'appelle Sheshai, et la Gemara nous dit que ce sont des éléments de guerre. Donc vous voyez qu'en réalité les 3 noms de ces 3 géants ne sont pas seulement des noms, ce ne sont pas seulement des noms, ce sont en réalité des problèmes de société en Israël, des problèmes de sécurité en Israël et des problèmes d'économie, comment gagner son argent. Et que à toutes les époques, ceux qui ne viendront pas en Israël, ceux qui décideront de ne pas monter en Israël, ce sera toujours à cause de ces 3 géants, ou de l'un d'entre eux. C'est-à-dire certains ne vont pas venir ici parce que comment est-ce qu'on va faire pour vivre, où est-ce qu'on va travailler, ça s'appelle Talmai, c'est le 1er géant. Les autres ne vont pas venir parce qu'ils n'ont pas envie que leurs enfants aillent se battre à l'armée pour défendre le pays. Ça ça s'appelle Sheshai, je préfère que mon fils aille à la yeshiva. Et le troisième élément, Achiman, j'aime pas la mentalité israélienne, on ne me dit pas bonjour dans l'ascenseur. Voilà les trois géants. Vous voyez comment la Gemara résume trois éléments qui peuvent nous passer à côté de notre étude sans même pas faire attention. On peut arrêter au premier niveau, il y a trois géants sur la terre d'Israël, et les explorateurs ont très 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 peur de ces trois géants, parce qu'ils sont forts, parce que. Ce n'est pas comme ça qu'on étudie la Torah. Ce que je viens de vous dire est une Gemara, comme par hasard elle est dans la Gemara de Sota, c'est-à-dire de la femme qui dévie. Or l'assemblée d'Israël est appelée une femme vis-à-vis de Dieu, et lorsqu'elle dévie au point de ne pas monter en terre d'Israël pour y vivre, et de développer des synagogues et des yeshivot et des mikvaot partout dans le monde, sauf en Israël, ça ce n'est pas Kakadosh Baruch Hu veut. Parce que ce que toi, en tant qu'humain, tu t'es décidé parce que tu t'es fabriqué une religion. Et Akadosh Baruch Hu est anti-religieux. Akadosh Baruch Hu, il est créateur d'une nation sur sa terre qui doit porter son nom et dévoiler son nom. Les choses sont très simples. Seulement, l'homme a tout embrouillé. Et si on exagère en plus, on ne comprend même plus le sens général de toute cette Torah, tu vas finir par croire que Dieu, c'est seulement un patron céleste qui veut que tu fasses Torah et Mitzvot, et si tu ne les fais pas, il va être très en colère après toi. Et voilà comment on réduit l'homme, tout doucement, à être étriqué, et à être nerveux dans une certaine religion, dans une certaine pratique, sans avoir une vision complète de ce que ce Dieu infini, béni soit-il, veut de son peuple. C'est très important toutes ces choses-là. La même chose au niveau de notre paracha. On peut connaître les lois de la vache rousse et se dire, tiens, il y a une vache, c'est très sympathique, il y a eu 9 vaches durant l'histoire, la 10e vache apparaîtra au moment messianique, et on va pouvoir jeter des gouttes d'eau de cette vache avec ses cendres pour rendre purs les gens qui sont impurs de mort. Oh ! Ça ne s'arrête pas là, Rabotai. La Torah est en train de nous enseigner quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus primordial. Elle vient nous dire, Rabotai, ne croyez pas que la mort, c'est la victorieuse dans ce monde. C'est la vie qui doit gagner. Et j'ai, dans mon jardin secret, dit Akadosh Baruch Hu, le moyen de faire dominer la vie sur la mort que vous croyez tous naturelle. La mort n'est pas naturelle. La mort est entrée, a pénétré dans notre nature seulement parce qu'il y a eu faute de Adam Harishon. La mort ne fait pas partie de la vie. C'est le jour où tu mangeras que tu mourras. Si Adam Harishon n'avait pas consommé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'y aurait pas eu de mort. Amarti Elohim Atem Uvne Elion Kullechem. Moi je vous considère comme des dieux. Amarti Elohim Atem. Incroyable. Uvne Elion, vous êtes les fils Elion, du supérieur, Kulchem. Mais si vous ne comprenez pas, si vous donnez à la mort cette force, eh bien c'est ce qui vous arrivera. Achem, que Adam, c'est Moutoun. Vous allez mourir comme Adam Harishon. Parce que vous ne croyez pas à la vie. Quand vous allez à un enterrement, vous dites, c'est peut-être moi le prochain. C'est tout ce qui vous avez dans la tête. Il faut arrêter avec ce système-là. Il faut comprendre que nous allons vers une vie d'éternité. Parce que moins que cela, ça voudrait dire qu'il y a un élément qui est plus fort que Dieu dans ce monde. C'est la mort. Impossible de dire une chose pareille, Chas v'Chalila. À tel point que le prophète Isaïe, au chapitre 43, dit que la mort est une honte, un scandale. Kherpa. Et il dit là-bas, Vecherfat Amo Yassir. Un jour arrivera où j'enlèverai cette honte par l'élimination de la mort. Comment? Bila Hamavet, la Netzach. L'éternité va avaler la mort. On ne la verra plus. Vous verrez que l'éternité. Donc Dieu vivant sera le roi. Il va régner sur les vivants que nous sommes. Alors si vous préférez encore la mort, ce n'est pas ce que vous avez lu hier si vous avez fait la tfila de Rosh Chodesh en lisant le Hallel. Lo hametim yehalleluya. Ce n'est pas les morts qui vont louer Dieu. Velo kol yordei duma. Et ceux qui descendent dans les ténèbres, ce n'est pas eux qui vont louer Dieu. Eux, ils sont morts. Anachnu, nous les vivants devons faire ce travail. Donc arrêtez de croire que la rencontre avec Dieu ne se fait que par la mort. Chas v'shalom. Nous devons rencontrer Dieu à travers la vie et par la vie, en étant vivant. C'est d'ailleurs l'une des plus grandes bénédictions dans la Gemara qu'on puisse donner à un être. Olamcha tir'e bechayecha. Je te souhaite de voir le monde, entre guillemets, supérieur de ton vivant. Pas que tu aies besoin de mourir pour aller rencontrer Dieu. Dieu, c'est pas quelqu'un qu'on rencontre parce qu'on est mort ou après la mort. Dieu, c'est quelqu'un qu'on vit de notre vivant. Quand la mère du Rav Kook, Alav Shalom, est arrivée en terre d'Israël, en bateau, le bateau s'approchait des côtes de Haïfa. Il y avait deux bonnes sœurs qui étaient là-bas et elles regardent les deux, la maman du Rav Kook. Elles ne savaient pas que c'était la maman du Rav Kook. Elles étaient sur le pont du bateau et elles lui disent « Qu'est-ce que vous venez faire en Terre Sainte ?» Et la maman du Rav Kook, comme une bonne juive, de leur répondre, « Et vous, qu'est-ce que vous venez faire en Terre Sainte ?»« Ah ben nous, on vient pèleriner là où notre Dieu est mort, à Nazareth. Et vous ?»« Eh bien moi, je vais là où mon Dieu est vivant. » Ken ? Alors il faut arrêter avec ces notions. Et la paracha de la semaine, c'est la paracha de la vie, Rabotai. Donc arrêtez de croire que c'est comme ça, il n'y a rien à faire, on est tous voués à rentrer dans ce trou, un jour ou l'autre. Ça, c'est après la faute. Mais nous sommes en train de corriger ce degré, et nous devons revenir vers la vie. Les kabbalistes qui ont compris ce secret n'acceptent pas du tout cette notion et vont tout faire pour arrêter en fait le cercle vicieux de la mort depuis la faute du premier homme. L'un d'entre eux va écrire en réalité un livre qui va redonner en fait le sens de la vie. Étant donné que le premier homme a consommé de l'arbre de la connaissance, on appelle en hébreu « Es Haddaas Tov Vera » du bien et du mal, le Hari HaKadosh, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, Alav HaShalom, Kuto Tagen Alenu Amen, a écrit son livre clé qui s'appelle « Es HaChaim » l'arbre de la vie. Je vous rappelle que si le premier homme avait mangé de l'arbre de la vie, il n'y aurait pas eu de mort. Il n'a pas mangé de l'arbre de la vie, il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc il y a eu mort. Et après, juste après avoir mangé de cet arbre, Dieu le renvoie du jardin d'Éden et il met deux gardiens pour ne pas que l'homme puisse rentrer dans le jardin. Pourquoi ? Pour ne pas qu'il mange de l'arbre de la vie. Mais je viens de vous dire qu'il faut manger de l'arbre de la vie. Oui, mais Il fallait manger avant. Maintenant que tu as mangé de l'arbre de la mort, en fait, du bien et du mal, si tu rentres maintenant une fois de plus dans le jardin d'Éden et tu manges maintenant l'arbre de la vie, que se passera-t-il? Tu resteras éternellement dans le bien et le mal et dans la mort. Donc Dieu, pour ne pas nous causer ce dégât, il nous a empêchés. Jusqu'à quand? Jusqu'au sixième millénaire, où là, il y a une autorisation de repénétrer dans le jardin d'Éden, et c'est pourquoi, nous disent les sages, c'est là où le peuple d'Israël, dans le futur, rejoindra sa terre. Et c'est pour ça que nous sommes rentrés sur notre terre à la fin du sixième millénaire, et là, ils vont commencer à goûter de l'arbre de la vie. Et qu'est-ce que c'est que cet arbre de la vie? C'est la Torah, de la Kabbalah et de la Chassidut. Et c'est comme ça que la vie va gagner la notion de mort. Quel? Les goïms sont en réalité la partie extérieure du peuple d'Israël. C'est-à-dire que si vous prenez toute l'humanité, les enfants d'Israël et les nations du monde, vous pouvez donner l'exemple d'un corps et d'une âme. L'âme, c'est le peuple d'Israël, et le corps, c'est les nations du monde. Donc tout ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour les nations du monde, qui un jour vont s'appeler, selon les prophètes, mon peuple. Dieu les appelle aussi mon peuple Israël. Donc, s'ils deviennent comme Israël d'aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Des Kohanim Gdolim. Ve'atem tihiyuli mamlechet Kohanim ve'goy kadosh. Donc on va monter à un degré exceptionnel. Et le Kohen Gadol qui est chez nous, lui aussi va monter. Quel degré il va atteindre le Kohen Gadol si on est tous déjà des Kohanim? Minimum Superman. Okay? Donc il y a des élévations. Et il faut toujours considérer que tout ce que nous avons reçu dans la Torah n'est pas seulement pour baigner dans notre petit jus juif, c'est pour les nations du monde. La Torah est en réalité universelle. Et non seulement les nations du monde, mais les animaux, les végétaux, les minéraux. Tout va changer d'étape, tout va augmenter de niveau. Donc nous sommes responsables, co-responsables avec le Créateur lui-même, puisqu'il nous a pris comme associés, pour l'amélioration de ce monde et pour remettre la vie comme élément essentiel. Tout ça, c'est dans votre petite paracha de ce Shabbat d'après-demain, la vache rousse. Alors, arrêtez de croire qu'il s'agit ici d'une petite mitzvah, d'une petite vache qu'on va brûler, on va prendre les cendres, on va jeter de l'eau avec un petit peu de ces cendres et ça y est, on va être purifié. Non, ça va plus loin. C'est ici un réveil, c'est ici une promesse divine, cachée, subliminale, de ce que le monde va redevenir une fois que tout ça va être soigné, va être guéri. Et ce n'est pas en vain parce que il n'y a pas plus impur que la mort. Et pourquoi c'est tellement impur la mort? D'ailleurs, il faut d'abord aussi s'arrêter sur la notion d'impureté. Qu'est-ce que ça veut dire impur? En français, ça ne veut rien dire. Pur, impur, ça ne veut rien dire. C'est des mots. En hébreu, le mot tum'a, c'est trois lettres. Racine, vous avez fait l'ulpan. Ta, me, tet, mem, alef. Vous inversez les lettres, ça devient atum, c'est-à-dire imperméable, bouché. Donc la tum'a bouche l'être. Qu'est-ce que ça veut dire, bouché de quoi? Eh bien, il n'y a plus de flux divin qui puisse le traverser. Chas v'shalom. C'est comme si la vie l'avait quitté. Mais c'est exactement ce qui se passe. Quand quelqu'un est vivant, et surtout s'il fait partie du peuple d'Israël, il est rempli de quoi? De vie. Il est rempli de Dieu. Le divin est en lui. Qui me fait parler maintenant? Est-ce que je peux parler tout seul? Si je n'avais pas de vitalité divine en moi maintenant, comprenez bien que c'est mon âme qui est en train de parler, n'ayez pas peur. C'est mon âme qui utilise tout simplement des éléments. Elle va utiliser la bouche, elle va utiliser les yeux, mais c'est l'âme. Quand l'âme nous quitte la nuit, on est incapable ni de parler, ni de voir, même si on vous ouvre les yeux pendant votre sommeil, vous n'êtes pas là. Alors, que s'est-il passé? Bien, c'est l'âme qui est sortie dans sa quasi-totalité. Il reste un tout petit peu, mais pas assez pour voir, pour parler, pour comprendre. Je peux me mettre à côté de toi pendant que tu dors et te raconter une histoire. Tu comprendras même pas, tu te rappelles même pas. Pourquoi? Tu es vivant. Oui, mais tu dors. L'aneshama est partie. Donc lorsque l'aneshama revient, elle rentre dans mon corps, elle va commencer à utiliser tous les ustensiles qui ont été mis à sa disposition. Et donc elle utilise le verbe, la bouche, avec tous les orifices de la bouche, et il faut que j'arrive à contrôler ma bouche pour ne pas bégayer, pour ne pas trembler, pour ne pas répéter, pour dire des choses justes. C'est évident, c'est un travail. Il y a des gens qui ont tellement à dire que lorsqu'ils ouvrent la bouche, il n'y a rien qui sort. Eh oui, pas facile. Mon cher Rabbeinu était tellement plein d'infini que lorsqu'il ouvrait la bouche, c'était tellement tout venait en même temps qu'il ne sait même pas par quoi commencer. Si vous voulez écrire un texte sur un thème quelconque, moins vous en savez, plus vous écrivez.
Excusez-moi, je vous en prie, j'ai rien pour acheter à manger à mes enfants.
On est en plein cours, madame. Après le cours, ben, elle sera tachée. Donc en réalité, si quelqu'un est plein de savoir et de connaissances, c'est là où il va faire dévoiler, mais d'une manière beaucoup plus restreinte, parce qu'il ne sait même pas par où commencer, tellement il y a d'informations. Vous comprenez? D'ailleurs, le Hari HaKadosh n'a jamais écrit de livre. Il a utilisé son élève, Rabbi Chaim Vital, et après le fils, pour écrire. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il posait sa plume, il y avait une infinité de connaissances qui arrivaient, il ne savait même pas par où commencer. Et bien c'est la même chose. Donc, lorsqu'un homme est vivant, lorsqu'une femme du peuple d'Israël est vivante, eh bien il y a tellement d'intensité divine en elle qu'au moment où elle va perdre cette intensité, elle va devenir impure. Si vous rentrez maintenant dans un cimetière goy, vous avez un problème ou pas? Aucun problème. Même un Kohen, il peut marcher là-bas tranquillement, parce qu'il n'y a pas d'impureté. Et pourquoi il n'y a pas d'impureté? Mais parce que de son vivant, il n'avait pas de pureté. Donc il n'y a rien qui sort. Il n'y a pas grand-chose qui sort, il n'y a pas de différence. Mais quand vous rentrez dans un cimetière juif, étant donné qu'il y a tellement de vie qui a quitté ses morts, que là il y a impureté. Vous comprenez comment ça marche? Pourquoi je vous rappelle ça? Tout simplement parce que les Arabes, qui ne connaissaient pas cette halakha, et qui savent qu'un jour le Mashiach va venir, ont mis un cimetière dans l'une des portes de Jérusalem par lesquelles le Mashiach doit passer, en se disant qu'il ne pourra pas marcher là-bas parce qu'il y a un cimetière. Mais en réalité, il n'y a aucun problème, le Mashiach pourra traverser ce cimetière parce qu'il n'y a pas d'impureté. Donc plus vous êtes empreint de pureté, de générosité, de vie, de céleste, plus quand vous allez dormir et chas de shalom quand vous allez mourir, il y aura un manque. On est d'accord? Une femme enceinte, au moment où elle perd la vie qui est en elle, c'est-à-dire l'accouchement, personne n'est mort. Hein? C'est juste un bébé qui est sorti. Eh bien, elle devient impure. Pourquoi? Parce qu'elle avait encore un être à l'intérieur d'elle qui était tellement de vie qu'au moment où cette vie l'a quittée, je ne parle pas maintenant de la Neshama, je parle même du corps, alors elle va être impure. Et si c'est une fille qu'elle a dans son ventre, elle va être impure double. Pourquoi? Parce que la fille, elle aussi, elle va donner la vie un jour. Vous avez compris comment ça marche? Plus il y a intensité de vie, plus lorsque cette vie sort, il y a l'impureté qui s'installe. C'est très simple. Regardez la Torah comme elle est simple. Il suffit de l'expliquer simplement. Elle est logique. Okay. Pas la même. Pas la même. C'est pour ça que lorsque cette intensité qui n'est pas du côté de la Kedusha, il n'y a pas trop de différence entre au moment où elle est ou au moment où elle quitte. Vous savez? Donc, comment est-ce que vous allez traduire maintenant impureté? Istalkut achaim. C'est lorsque la vie s'en va. Lorsque la vie quitte un endroit. D'accord? Plus le vivant quitte un endroit, plus le pays en question sombre et meurt jusqu'à sa mort. Par exemple, quelle était la sainteté de l'Égypte? Le peuple d'Israël qui était en elle. Au moment où le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, c'est devenu un musée. C'est fini. Et d'ailleurs, tous les pays du monde, c'est pareil. À chaque fois que les enfants d'Israël vont quitter n'importe quelle terre, même aujourd'hui, cette terre est vouée à la disparition. Fini. Donc en réalité, vous êtes les derniers Français d'histoire. Les goïms vont vouloir habiter, venir, et c'est pourquoi nous avons une loi qui leur est adressée, qu'à la fin des temps, lorsque le Mashiach va être là et que le Beth Amigdash sera reconstruit, les goïms devront venir 3 fois par an, minimum, ici. Donc ouvrez des petits commerces, des machins, ça marchera de folie. Et pourquoi ils devront venir ici? Parce qu'il y a une menace, entre guillemets. Tout non-juif qui ne viendra pas en Israël pendant les 3 fêtes n'aura pas de parnassa, même chez lui, pendant toute l'année. Donc ils vont voir que c'est presque de l'intérêt, et ils vont devoir venir ici et venir se prosterner au Beth Amikdash. Ils vont donc monter tous à Jérusalem. Donc tout est en train d'être mis en place, juste que vous ayez un tout petit peu, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer, a été déposé à la mairie de Jérusalem, la demande, avec des avocats, avec les plans du 3e Beth Amikdash. Ça a été déposé à Jérusalem, dans le tabou, comme si on allait construire un immeuble. Que vous le sachiez. Ça y est, ça a été déjà déposé. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est des on-dit. Quand on dit on-dit, on ne sait même pas d'où ça vient. C'est des gens qui inventent des choses. Ce qu'on dit, c'est que la Shekhina va venir s'habiller dans l'élément que nous allons, les vivants, construire. Donc, nous devons construire. Et encore une chose que vous ne savez peut-être pas, vous avez l'impression que c'est le Mashiach qui va construire le Beth Amikdash, d'accord? Pas du tout. Le Beth Amikdash sera reconstruit même avant la venue du Mashiach. Et c'est celui qui le terminera, qui s'appellera lui-même le Mashiach. Donc vous voyez que tout est erroné, il faut revenir à l'étude. Il faut arrêter de dire des choses qu'on a entendues. On a tellement d'idées reçues que sans étude, ça devient une matboucha. Tiens, la salade de piment, bien cuite pendant 2000 ans, tiens, elle doit être bonne. Il ne reste pas 300 ans. Nous sommes à l'entrée du Shabbat, puisque le Shabbat n'entre pas au moment où les étoiles sortent. 300 ans, c'est lorsque les étoiles vont sortir. Mais le Shabbat rentre au coucher du soleil. Et nous sommes maintenant déjà au moment du coucher du soleil. Donc préparez-vous. Quel? Quel? C'est une Torah entière dans le Ramchal. Rabbi Moshe Chaim Lutzato, Akadosh, Alav Shalom, Sruto Tagen Alenu. Le Ramchal nous explique ce qu'il y aura pendant le 7e millénaire, le 8e millénaire, le 9e millénaire et le 10e millénaire où on sera là-bas déjà absorbé par l'infini en fait. On ne va pas comprendre, il n'y aura plus de différence, on ne peut pas comprendre aujourd'hui comment ça va être. D'accord ? Mais on a encore le temps. Alors tout ceci, c'est deux lignes de mon cours qui a 7 pages.
On a le temps.
Tisha B'Av de cette année, de toute façon dans l'avenir, même si ce n'est pas cette année, je souhaite que ce soit cette année, Tisha B'Av va devenir la journée la plus heureuse de l'année. Puisqu'en réalité, le mois de Av s'appelle Av, qui veut dire en hébreu papa. Alors aujourd'hui, on a un petit papa. Comment on dit un petit papa? Aviv. Pessah, ça tombe dans Chodesh ha-Aviv. C'est-à-dire le Pessah est tombé dans le mois du petit papa. Mais quand on arrivera au grand papa, on sera au mois de Av, et là, en réalité, il y aura toute la transformation de Tisha B'Av. Tisha, c'est la 9e, Tisha, le 9 Av. Or, la 9e sphère, c'est le Yesod, dans la Kabbalah, qui correspond à la Brit Mila chez l'homme et chez la femme, ce degré qui donne la vie. Donc, Tisha B'Av, écoutez bien, je vous le dis en hébreu, c'est la 9e partie de papa. Tisha shel av, Tisha be'av. Donc c'est le fondement, c'est la Brit Mila du papa. Cette Brit Mila qui a donné la mort, donc la destruction du temple et la galoute, à cause de quoi? Des explorateurs qui ont pleuré ce soir-là et qui ont dit on ne veut pas monter en Israël, on veut construire un petit mikvé là-bas, je ne sais où, dans une petite ruelle à Paris, ou à Londres, ou à Hong Kong, ou ce que tu veux. Et Dieu leur a dit, c'est comme ça, vous allez pleurer pendant tous les Tisha B'Av, parce que vous n'avez pas compris ce que c'est le fondement de papa, qui veut en réalité donner la semence pour la terre d'Israël, parce que c'est ici que ça se passe, que l'histoire devra se passer. Donc c'est un jour qui va transformer en Simcha. D'ailleurs même le mois dans lequel nous sommes, nous avons commencé hier un nouveau mois. On est dans le mois de Tammuz. Le mois de Tammuz est un super mois qui malheureusement a raté sa mission à cause de nous, encore une fois. Parce que lorsque l'Éternel donne la Torah et qu'il nous la donne avec sa bonté, qu'est-ce qu'on fait? On fait un veau d'or en même temps. C'était le 17 du Tammuz. Malheureusement. Mais si on n'avait pas fait le veau d'or, on aurait eu la Torah, on aurait eu la vie. Et il n'y aurait plus eu de mort, puisqu'au moment du don de la Torah, qu'est-il marqué? Bila hamavet la netza. Le fameux verset que je vous ai dit tout à l'heure. La vie était redevenue dominante. Il n'y avait plus de mort. À tel point qu'au moment du don de la Torah, il n'y avait plus de maladie. Il n'y avait plus de gens qui boitaient, il n'y avait plus de gens qui avaient des jambes en bois, il n'y avait pas d'aveugles, il n'y avait pas de sourds, il n'y avait pas de muets, il n'y avait rien. Même plus. Après la sortie d'Égypte, il a été guéri de cette maladie. C'est fini. Donc vous comprenez qu'en réalité, c'est toujours nous, c'est-à-dire les receveurs, ceux qui sont censés recevoir, qui ne sont pas à la bonne place, malheureusement. Donc il faut faire l'effort, surtout le mois de Tammuz. Maintenant, nous y sommes. Dans 2 semaines, ce sera le 17 Tammuz. Est-ce qu'on sera des bons Kélim cette fois-ci? Et encore une fois, on va faire un petit veau d'or au lieu de recevoir la lumière divine. Vous savez ce que ça veut dire faire un petit veau d'or? Pas fabriquer un petit veau en allant prendre de l'or et de l'argent chez les hommes et les femmes. Faire un veau d'or, c'est tout simplement ne pas comprendre le sens qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, l'infini. Et se suffire d'un petit truc qu'on appelle en hébreu Rosh Katan. Tout à fait. Mais au moment où il se passe quelque chose et les gens à côté se taisent, ils sont d'accord. Qui ne dit mot, ou 200 même. Exactement. Donc c'est ça le problème. Les seuls qui n'ont pas fauté, c'est les femmes. Parce qu'on leur a pris les bijoux de force et la tribu de Lévi. Mais voilà. Mais qu'est-ce qui est plus grave, la faute du veau d'or ou la faute des explorateurs? Les explorateurs. C'est énorme. C'est énorme. Mais donc on a encore des choses à réparer pour que la vie revienne en place. Tout ça pour vous ramener à la vache. Oh la vache! La vache rousse, qui en réalité est une vache rouge. Il n'y a pas marqué Paradjindjit. C'est Para Adouma. C'est une vache qui doit être rouge. Et aujourd'hui, nous en avons plusieurs. Il y a un élevage de vaches rouges dans le Golan. Et chaque fois, il y a une nouvelle. Donc on attend si c'est cette nouvelle qui va être prise pour être égorgée, peut-être cette année, pour faire déjà les cendres de la vache rousse, on peut le faire, et rendre pur de l'impureté de mort. On peut le faire même avant le Mashiach. Ça y est, c'est déjà... Ah, qui va donner l'ordre? Il va falloir que se monte un Sanhédrin qui existe déjà en potentiel. Tout à fait. Moi, je suis d'accord. Dis-tu que je suis pas là. Et donc, ces cendres-là vont servir pour les moments où nous sommes. On y est déjà. Il y a des vaches rousses parfaites. Parfaites. Il y a un élevage entier. Si vous voulez, vous rentrez, vous marquez Para Adouma, vous voyez l'élevage dans le Golan. Nachon. Et j'ai un petit peu honte de le dire, mais je le dis, c'est que nos rabbins aujourd'hui sont un petit peu frileux. Il faut plus de force, plus de courage. C'est toujours malheureusement comme ça que ça se passe. Vous
pouvez nous redire quelles étaient les conditions pour lesquelles il n'y a plus ça devient depuis cette
année? Tout simplement parce qu'il n'y a plus, les gens n'avaient plus la même hauteur, mais on n'a pas besoin d'avoir la hauteur sublimé de ce Sanhédrin, on peut commencer par petit, en faisant petit. Même le Beth Amikdash, qui va être construit, d'ailleurs on a déjà les plans, comme je vous l'ai dit, et je les ai visualisés Shabbat, jeudi, vendredi, Shabbat, on a travaillé sur tous les plans, pour voir un petit peu comment c'est énorme, ça va être, l'esplanade va faire 10 fois ce qu'elle fait aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez que l'esplanade du Temple, c'est la plus grande esplanade qui existe au monde.
Qu'est-ce qu'on va faire?
Okay. Alors, on peut commencer, pour ne pas encore créer de guerre, faire des guerres et tout ça, trouver l'endroit du Mizbéar. On n'a pas besoin du Beth Amikdash pour faire le Mizbéar. Et Pessah prochain, on peut déjà faire le Korban Pessah, le premier Korban. Ok. Je vous parle de choses qui sont de l'actualité, Rabotaï. Dans 50 ans, on va vous raconter l'histoire d'aujourd'hui. Ça veut dire dans la Haggadah de Pessah, dans 50 ans, Be'ezrat Hashem, il y aura l'histoire d'aujourd'hui, de 2020, avec les masques. On va dire, Bishnat Tashaf, nous étions tous comme des... J'étais à un mariage, je me suis dit, Misken, le mec... Toutes les photos dans l'album, c'est tout avec des gens. C'est qui celui-là? Je sais pas, la vérité, ressemble à Maurice Besson, c'est Bébert. Okay. Alors voilà, donc ça c'est l'histoire de la vache rouge. Et cette histoire-là, cette paracha, elle se passe quand dans le désert? Si vous deviez donner un moment historique, c'est quand? Quelle année? On est sorti d'Égypte, d'accord? Il y a quelques semaines. On est où là? Où on est? Deuxième année, troisième, quatrième, cinquième, sixième? On est à la 39e année. On est juste à l'entrée de la terre d'Israël. Et maintenant, vous comprenez pourquoi on a besoin maintenant de se rendre pur de l'impureté. Parce que la terre d'Israël, c'est la terre de la vie. Et on ne peut pas rentrer dans cette terre avec cette notion d'impureté. Donc, Akadosh Baruch Hu demande de faire cette mitzvah maintenant. Les gens qui ne savent pas où ils en sont, et on passe de la première année à la 39e, parce qu'on raconte jamais ce qui se passe au milieu, vous savez. Il y a 38 ans et demi où on ne sait pas du tout, il n'y a rien. On sait juste qu'ils ont été dans des étapes, dans des étapes, dans des étapes. C'est tout. C'est comme Moshe Rabbeinu, il a vécu combien d'années? 120 ans. Et combien la Torah raconte de ses années? Combien d'années elle raconte de sa vie? 2 ans et demi. Tout ce que vous savez sur Moshe, c'est 2 ans et demi. Vous vous rendez compte? D'accord? Et donc c'est la même chose. Pourquoi la Torah elle fait ça? Mais tout simplement parce que la Torah n'est pas là pour nous raconter des histoires. On sait qu'un jour Moshe s'est réveillé le matin, il avait envie d'un café avec un croissant, il est allé chez Madame Bensoussan, il y a fait... Mais on s'en fiche de ça! La Torah elle va pas marquer ça. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien pour les générations à venir. Donc la Torah ne va retenir que ce qui est de l'ordre de la prophétie qui va me servir aujourd'hui. Moralité, tout ce que la Torah me raconte, c'est ma vie de maintenant. Donc si je lis la paracha de la semaine comme une paracha qui s'est passée il y a 3500 ans, j'ai rien compris. Mais si je comprends que la vache c'est maintenant pour moi, et que je dois rentrer dans cette paracha, ou plutôt faire en sorte que cette paracha me rentre dedans, c'est autre chose, je deviens acteur de cette Torah. Pas une Torah qui me parle d'une histoire, c'est très sympathique. Et Pinocchio aussi, c'est très sympathique. Et Blanche-Neige et les Sept Nains, c'est sympathique aussi. Exactement. Malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer. Quand on est rentré en terre d'Israël, je vous rappelle que la Géoula, la notion de Géoula, Rambam, c'est le seul qui nous donne la définition de Géoula. C'est quoi pour lui la Géoula? Ne plus être assujetti aux nations. Donc c'était la création de l'État d'Israël. Rambam! Au moment où on a créé l'État d'Israël, on était combien? 20%. C'est tout. On dit, je veux des textes, on dit, des références. Moi, je ne vous dis rien sans référence. On peut dire ce qu'on veut. Que ce soit une fila, je m'associe. Moi aussi j'ai envie que tous mes frères et toutes mes sœurs, d'ailleurs je suis en train de faire un programme énorme pour essayer de le faire. Il y a 800 familles là, j'ai dans une liste. Mais, Bezrat Hashem, il faut prier. Mais ça ne veut rien dire. Vous avez tous des cousins et des cousines dont les enfants ne sont plus juifs. Fini. Alors quoi, tu les comptes comment ceux-là les pauvres? Il n'y a pas un seder de Pessah en Houtzlaharetz où il n'y a pas au moins 10 goy à table, ou 5 goy à table. Et ils sont là, les pauvres, ils mettent une kippa, et on ne sait pas ce qui se passe, et si c'est des filles, alors... C'est vrai ou je raconte des bêtises? Alors, ça c'est en France, aux États-Unis, c'est encore pire. Non, jamais. Jamais, jamais le judaïsme n'est passé par le père au grand jamais. Jamais. D'accord? Ce sont des vérifications ilkhatites. Le judaïsme ne peut passer que par la maman, et pour une très bonne raison, parce que c'est elle qui a donné cet enfant en vie, donc elle est sûre que c'est le sien, mais on ne sait pas qui est le père, pas toujours. Je ne sais pas, moi je ne peux pas parler avec le masque, donc je suis obligé d'enlever. Mais s'il y a un contrôleur qui rentre, vous prenez 1000 shekels aujourd'hui. 1000 shekels vous prenez aujourd'hui pour un... Alors, il y a une grande différence, et là on... entre le système que nous avions en exil et le système que nous devons développer en terre d'Israël. En terre d'Israël, on ne doit plus avoir peur de la matière. En exil, on avait peur de la matière. Et donc on fuyait la matière pour rester dans l'esprit. En Eretz Israël, et c'est ça la faute des explorateurs, c'est qu'ils ont eu peur aussi de descendre dans la matière d'Eretz Israël. Ils préféraient rester au mont Sinaï, dans un judaïsme élevé et dirigé par des miracles. On est d'accord que le mont Sinaï, c'était la plus grande yeshiva du monde. Le plus grand rabbin du monde, c'était Moshe Rabbeinu, il était le Rosh Yeshiva. C'est celui qui avait reçu la Torah d'Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas rêver d'un meilleur grand rabbin. On n'avait pas besoin de travailler, ni de payer quoi que ce soit. Les vêtements grandissaient avec nous, étaient repassés, nettoyés. On mangeait de la manne qui tombait du ciel et on buvait de l'eau qui sortait de la terre, le puits de Myriam. Est-ce que vous avez mieux que ça?
Non.
Non. Alors pourquoi ne pas rester là-bas? Je vous pose une question. Parce que ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est tout. Et d'où ce que je sais que ce n'est pas ce que Dieu veut? Mais parce qu'il le dit dans le premier chapitre du livre de Dvarim, le prochain livre. Rav Lachem. Je vous traduis avec des mots très sympathiques en français. Il y en a marre. Shevet Baharazé. Que vous restiez dans cette yeshiva. Mais on a tout à Kadosh Baruch Hu, on est en train de faire Torah et Mitzvot. On a un grand rabbin, mon cher Rabbeinu, on n'a pas besoin de travailler. Et à Kadosh Baruch Hu nous dit, mais c'est pas ce que je vous ai demandé, moi. Je vous ai demandé de voyager, de monter sur cette terre d'Israël pour essayer de changer la face de la matière, pour découvrir la lumière qui se cache à l'intérieur de cette matière. Voilà notre rôle en terre d'Israël. C'est-à-dire que je suis capable, normalement, si j'avais confiance en moi, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, de parler à la matière et de découvrir que la matière me donne vie. Ça vous rappelle quelque chose? Eh bien, c'est dans la parasha de la semaine. Moshe doit parler au rocher pour que le rocher donne de l'eau, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe le rocher. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, tu n'as pas de Emouna. Mon cher Rabbeinu, tu n'as pas eu de Emouna. Waouh. Vous avez compris ce que devait faire Moshe? C'était quoi ce symbole-là de frapper le rocher? Ou de parler au rocher? C'est quoi ce symbole? C'est tout simplement que Dieu est en train de préparer le peuple d'Israël à la nouvelle façon de travailler, d'œuvrer sur la terre d'Israël. Sur la terre d'Israël, on n'a plus besoin de frapper la matière. La matière n'est pas mon ennemi. Je dois juste savoir lui parler et elle me donnera tout ce qu'elle a dans ses entrailles. C'est ça le secret de la terre d'Israël, Rabotai. Et les gens qui n'ont pas compris ça, qui sont restés coincés dans leur religion, tout ce qui est matériel, ils se sauvent. Donc vous allez aller dans des quartiers, malheureusement, qui n'ont aucun rapport avec le monde d'en bas. Et ils vivent comme s'ils étaient dans un autre monde, dans un autre siècle. Et le monde d'en bas, on s'en fiche, c'est pourri, c'est sale, c'est pas grave. Où tu as vu une chose pareille? Où tu as vu une chose pareille que l'entrée de ton immeuble, ça doit ressembler à une porcherie? Où tu as vu ça? Où? c'est cracher sur la terre d'Israël, Chas v'Shalom. C'est ne pas comprendre cette terre. Quelle? À quoi sert l'exil? Mais quand on ne sait pas. Quand on est. Quand on a fait ce travail, et qu'il fallait aller chercher ces étincelles, combien d'étincelles il y avait? La Torah écrite, la Torah orale et la Kabbalah. Voilà les étincelles. On est allé en Égypte, qu'est-ce qu'on a sorti de là-bas? La Torah écrite. On est allé en Babylone, qu'est-ce qu'on a sorti de là-bas? La Torah orale, Talmud Babli, le Talmud de Babylone. Le dernier exil duquel vous faites partie, on a ramené la Chassidoute et la Kabbalah en terre d'Israël. Il n'y a plus rien à faire en dehors des restes d'Israël. Donc tout le travail maintenant se trouve ici. C'est fini. C'est aussi simple que ça. Malheureusement, les élèves ne sont pas là. Ça me fait beaucoup de mal. C'est en réalité le secret de tout ce qui se passe en relation avec la matière, terre d'Israël. Donc j'ai besoin de parler à cette matière. Maintenant, cette matière, ça peut être un homme, une femme. Est-ce que j'ai besoin de vous parler maintenant en vous frappant dessus? Non. Vous savez comment s'appelle la Torah de l'exil dans la Gemara? Makel Chovlim. C'est-à-dire un bâton sur lequel on tape les gens. Alors je vous donne un petit peu le système. Caméra. Moraï Verabotai, si vous ne faites pas la Torah et les mitzvot, vous allez être brûlé en enfer. Rosh Hashanah et Yom Kippourim approchent. Akadosh Baruch Hu est là. Oy va avoy, vous avez encore 30 jours. Sinon, chlet, vous allez être inscrit dans le livre des morts. Moi, je vous ai dit, le train avance, vous êtes attaché sur les chemins de fer et le train avance. C'est tout. Coupé. Ça, c'est la Torah de l'exil. C'est fini, cette Torah. Torah d'Eretz Israël. Shalom Rabotai, vous êtes tous des tzadikim. Même si vous n'avez pas de kippa sur la tête, même si vous n'avez pas de kisui roche. Léat, léat. Akadosh Baruch Hu vous aime, vous êtes maintenant sur sa terre. Et léat, léat, vous allez commencer à vivre les choses et à comprendre parce que vous êtes revenu à votre nature. Et moi je suis là pour vous renforcer et vous allez voir que vous allez avoir que des brachos. Que de la lumière. Vous comprenez, c'est tout à l'envers. Tout à l'heure, vous êtes tu, hein. Maintenant, amen, amen. Ça marche comme ça. C'est la même chose. Il y a une conversation, il y a un dialogue avec la nature. Il ne faut plus avoir peur de cette nature. Pourquoi? Parce qu'elle contient le Kodesh, pas moins que la Neshama. Est-ce que celui qui a créé la Neshama a aussi créé le corps? Oui, c'est le même. Alors pourquoi le corps est devenu tellement pourri à vos yeux? Pourquoi vous vous négligez au niveau du corps? C'est un sourd. Il n'y a pas marqué en hébreu qu'il faut garder son âme. Il y a marqué qu'il faut garder son corps. Parce que l'âme, elle est pure, elle ne peut pas se salir. Le corps, oui. Donc faites attention, habillez-vous bien. N'ayez pas de trous dans vos vêtements. N'ayez pas de taches. Si je donne un cours de Torah, Chas v'Shalom, et j'ai une tache sur mon vêtement, je suis condamné à l'Aïta. C'est marqué comme ça, c'est une Gemara. Et si je sens mauvais, si je ne me lave pas, et je viens pour représenter la Torah, mais comment ça marche? Je suis représentant, il y a des gens ici qui ont travaillé comme représentants dans votre vie. Comment vous étiez? Top, Nahon? Parce que vous représentez le produit. Moi, je veux représenter la Torah, je peux venir comme un pourri. C'est tellement simple. Alors dans le but, il faut tous marcher comme ça, parce que si tu lèves les mains, tu meurs par asphyxie. C'est pas normal. Alors faites attention à toutes ces choses-là. La terre d'Israël, elle demande, respectez-moi. Si vous jetez un chewing-gum, si vous jetez un papier, si vous jetez un petit verre que vous aviez, vous croyez que la terre, elle reçoit comme ça? L'endroit où ça a été déposé, elle dit, pas grave, les choses se retournent. Tout à l'heure, juste avant de sortir, il y avait un camion avec un mur. Et le type dans le camion, il pose son verre sur le mur. Et le verre tombe. Toc. Il tombe de vos côtés. Je prends le verre et je lui jette comme ça dans le camion. Je lui dis, ça toi, tiens, tu as oublié. Il me regarde, oh! J'ai dit, non, c'est le cri de la terre aussi. Elle a crié, oh, tu l'as pas entendu. Il y a à faire, et c'est pour ça qu'on est là, Rabotai. Il faut arrêter de râler, dire, ouais, ils sont pourris, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Commence à éduquer, tout doucement. Et fais-toi les choses. Amène de l'esthétique. Vous êtes français, vous êtes française. Vous avez apporté avec vous quelque chose de la galoute. C'est l'esthétique. Eh bien, rendez votre vie plus belle, plus esthétique. Amenez ces notions, même dans la Torah. Les philosophes les plus grands étaient français. Eh bien, il faut rentrer cette pensée dans la Torah. Ils veulent. C'est juste. Madame, moi, je suis né en Israël. Quand j'étais petit, on pendait des chats. Aujourd'hui, c'est fini. Donc, il y a une évolution. Baruch HaShem. Il ne faut pas croire que ça ne marche pas. Ça avance. Ce qu'on a fait en 72 ans, des pays l'ont pas fait en 2000 ans. Et encore, quand on les lâche un petit peu, ça devient des animaux. Regardez ce qui se passe partout en Europe et aux États-Unis. Comment les gens, ils cassent des magasins, ils pillent, ils volent, ils écrasent tout, ils sortent avec des cintres par milliers. Et où vous avez vu ça? C'est quoi ça? L'Arma, les États-Unis, New York. Il faut toujours voir le verre à moitié plein. Toujours. Kof, Khatsi, Melea, c'est au féminin. Quelles sont les initiales? Kof, Khatsi, Melea. Initiale? Chacham. Chacham. Kof, Khatsi, Melea. C'est ça le Chacham. C'est celui qui voit le verre à moitié plein. Et qui ne cherche pas toujours ce qui manque, ce qui ne va pas. Ça s'appelle du Aïn Ra'a, c'est un mauvais œil. Il a toujours un mauvais œil. Ouais, ça va pas. C'est bien, mais pourquoi tu as fait comme ça? Mais pourquoi tu... Toujours quelque chose qui va pas. Donc toute la paracha de Para, elle symbolise quoi en fait? L'inacceptation du peuple d'Israël de la notion de mort. On veut pas. Ça ne convient pas. Je veux la vie. Et plus on est proche de la sortie de la vie, plus on est en mouvement. Regardez les enfants. Ils viennent sortir. Tac, 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 ça court toute la journée. Il faut les forcer pour dormir, presque, il faut les punir. Okay? C'est une punition pour eux d'aller dormir. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est aller mourir. Ben oui, dormir, c'est la neshama qui sort. Normalement, si on était bien constitué, on ne devrait même pas dormir. Puisqu'on va dormir pour rêver. C'est la seule chose pour laquelle on va dormir, vous saviez ça? On ne va pas dormir pour se reposer, ça ne veut rien dire. C'est juste pour rêver, c'est le rêve qui nous repose. Donc tu aurais pu rêver, éveillé. Et si tu avais rêvé éveillé, tu n'aurais même pas eu besoin de dormir. C'est ce que faisait David Ameller. Donc il a vécu 70 ans en dormant une minute par nuit. Une minute. C'est la respiration d'un cheval. Ça, c'est autre chose. C'est possible. C'est possible. Si on rêve de son vivant, on n'a pas besoin d'aller dormir. D'accord? Parce que quand vous allez dormir, ce qui vous donne les forces, c'est parce que vous rêvez. D'ailleurs, le mot rêve en hébreu, c'est guérir. Si vous rêvez, tout le monde rêve. Si on ne reste pas 3 jours, on meurt. Donc si vous ne vous rappelez pas de vos rêves, c'est autre chose. Ça dénote de quelque chose qu'il faut arranger. faut arranger, parce que normalement, il faut se rappeler de ses rêves. Sinon, il y a un passage qui est bloqué. Mais normalement, on va dormir pour rêver. Et d'ailleurs, dans la Gemara, si quelqu'un ne dort pas 3 jours, comme il ne rêve pas 3 jours, on le frappe et on le force à dormir. C'est interdit. D'accord ? On peut ne pas dormir. Rabotai, je suis là pour donner un cours de Torah. Je vous dis que l'homme peut ne pas dormir. Je ne vous dis pas ce que vous, vous pouvez ou pas. Quelqu'un qui est vivant, complètement vivant, comme par exemple, qui est le plus vivant de tous ? Dieu lui-même. Hachem, qu'est-ce qu'il y a marqué sur lui ? Il dort. Hine, lo yanoum ve lo ishan. Pourquoi ? Parce qu'il est la vie lui-même. Donc plus tu es vivant, moins tu dors. Plus tu es déprimé, plus tu es au lit. C'est comme ça que ça marche, Rabotai. D'ailleurs, les morts, comment on les appelle ? Yeshene Afar, ceux qui ont trouvé un autre lit, c'est la poussière. C'est tout. Je suis là pas pour vous donner ce que vous êtes capable aujourd'hui ou pas. Je vous donne ce que l'homme, comme il a été créé, est capable. Et il faut revenir à cet état-là. Il ne faut pas rester dans notre petit état aujourd'hui, « Ah, j'ai pas réussi. » D'accord, t'as pas réussi. Mais moi, je suis là pour vous donner le but, vers quoi arriver, vers quoi revenir, en fait, vers notre vraie nature. Dis-tu que je suis pas là non plus. Hein. D'accord ? Aujourd'hui, une femme pour accoucher, combien de temps il lui faut ? 9 mois. Ève, la première femme, Chava, combien de grossesses de temps elle a eu ? 1 heure ? Rien du tout. Il y a marqué dans la Gemara, elle est montée avec son mari sur le lit, ils sont descendus à 7. Comme ça c'est marqué, ils étaient 2 en montant sur le lit, ils sont descendus 7. Adam et Ève, Caïn avec 2 jumelles, et Slicha une jumelle, et Hevel avec 2 jumelles. Donc ils sont montés sur le lit. Regardez la façon de parler de nos sages. Ils sont montés sur le lit 2, ils sont descendus 7. Alors vous allez me dire, ah mais je peux pas, moi non plus, oh, si j'ai pas 9 mois de grossesse, mais je peux pas. Mais oui, mais je parle pas de vous maintenant. Je parle de l'idéal. C'est comme ça. Et à la fin des temps, ça va redevenir comme ça. Okay. La même chose, les femmes, elles accouchaient 6 enfants. Dans le plus bas des cas. Il y a marqué dans la Gemara aussi 60. Okay. Shishim bekeresechal. Bon, vous comprenez que je ne suis pas en train de vous parler dans le matsoui. Vous savez ce que c'est le matsoui ? Ce qu'on trouve. Je suis en train de vous parler du ratsoui. Ratsoui, c'est ce que lui veut. Entre ce que lui veut, ce que nous avons été capables de faire, il y a un grand décalage malheureusement. Mais bon, il faut réduire ce décalage. Il faut redevenir ce que nous étions. Donc, tout ce cours, c'était pour vous dire que nous avons en fait un but. C'est que nous voulons que la vie redevienne l'essence de ce monde. Qu'on ne doit plus accepter comme un état de fait que la mort soit gagnante. Puisque l'ultime degré de tout, c'est Triat HaMetim, la résurrection des morts. Et c'est seulement là qu'on va dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est Gibor. Fort. Et vous le dites dans la Amida, Ata Gibor, Leolam Hashem Mechaye Metim. Alors, si tu n'es pas capable de faire vivre un mort, c'est comme si tu disais à Akadosh Baruch Hu, Ata Lo Gibor, tu n'es pas fort. Aussi simple que ça. Alors nous on dit à Kadosh Baruch Hu, tu es Gibor, parce qu'on sait qu'un jour arrivera Be'ezrat Hashem, où c'est la mort qui va gagner la vie comme maintenant, mais qui pas jamais, elle va être avalée par la vie. Et c'est la vie qui va gagner. Et la vie, l'éternité va dominer le passager. Je termine le cours en vous disant en réalité comment on faisait la vache. Et regardez maintenant, c'est très important, attachez vos ceintures, parce que c'est très délicat. Alors, la vache, qu'est-ce que c'est d'abord ? C'est l'animal le plus proche de l'homme au niveau de ce qu'il va consommer et le plus gros. On est d'accord ? C'est-à-dire que quand tu veux montrer la vie dans son essence la plus grosse, c'est la vache. La vache, c'est la vie pour l'homme qui mange de la viande. D'accord ? C'est l'animal le plus gros. Est-ce qu'on va prendre une vache ou un taureau ? C'est la vache rousse qu'on prenait ou un taureau roux ? La vache. Pourquoi on prend la vache ? Vous avez compris ? Parce que c'est une femelle. Or, qu'est-ce qu'elle a la femelle de plus que le mâle ? Elle donne la vie. Donc j'ai besoin de l'animal le plus gros qui est capable de donner la vie. Quelle est la couleur de la vie ? Le rouge. C'est la seule couleur d'ailleurs. Demandez à un enfant, dis-moi vite une couleur, il va te dire rouge. Si je ne vous prépare pas et je vous dis, dis-moi une couleur, tout de suite c'est le rouge. C'est la plus couleur de toutes les couleurs. Il n'y a pas plus coloré que le rouge. C'est la couleur. Et c'est pas par hasard que l'homme s'appelle Adam, Adam. Et que la terre s'appelle Adama, Adouma, c'est la même chose. Donc la vache, c'est la plus grosse, et elle est la plus vivante, puisqu'elle donne beaucoup de viande, et elle est toute rouge, et en plus de ça, c'est une femelle qui donne la vie. Il y a tout, hein, on est d'accord ? Ok. En plus de ça, elle est Temima. Qu'est-ce que c'est Temima ? Entière. Il lui manque rien. C'est-à-dire, on ne lui a pas coupé un jour l'oreille avec des ciseaux, rien. Ni un cil, ni rien du tout. Et elle n'a pas un seul poil qui diffère. Elle est rouge, complètement. Moins de deux poils. Blanc ou noir. Asher en bamoum. Jamais quelqu'un lui a enfoncé sans faire exprès quelque chose. Jamais elle s'est blessée par quelque chose. Elle est nickel, parfaite. Asher lo ala alea ol. Regardez les conditions, je suis en train de vous les lire, hein, dans la Torah, vous n'avez pas fait attention, mais c'est en réalité le verset de la Torah. Je vous ai un petit peu passé en revue tout le verset. Une vache qui n'a jamais travaillé, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a jamais travaillé, qui n'a jamais été soumise à quelqu'un d'autre, qui est étranger, qui n'a jamais porté un truc étranger, donc c'est une femme libre, c'est une vache libre, indépendante, forte, bien grosse, donnant la vie, bien rouge, c'est énorme. Il n'y a pas plus gros que tout ça, on est d'accord ? Regardez maintenant, je vais prendre exactement l'antithèse. Je vais prendre l'animal le plus petit maintenant. C'est quoi ? Le ver de terre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va associer à cette grosse vache. On va prendre un ver de terre. Et on va mélanger donc ce gros animal avec le plus petit des animaux qui représente qui, le ver ? La mort. La mort. Les morts sont mangés par les vers. Et l'homme mange la vache. Regardez l'antithèse, vous avez compris, je suis en train de vous faire en fait les parenthèses de la vie. Ça c'est au niveau animal. On va passer au monde végétal. Qu'est-ce qu'on devait mélanger à tout ça ? Parce que tout ça, on va le brûler ensemble, hein, tout ce que je suis en train de vous dire. On va prendre végétal. On va prendre l'hysope, zaatar. C'est la plus petite des plantes, elle pousse collée au mur. Plus petite. Et à côté d'elle, le plus grand des arbres qu'il y a ici, c'est quoi ? Le cèdre. La même chose, regardez, je suis en train de prendre la parenthèse des plus grands et des plus petits. C'est extraordinaire ce que je suis en train de vous faire là. Et maintenant, on va descendre au monde minéral, c'est-à-dire l'inanimé. Quel est l'élément de la vie ? L'eau. Quel est l'élément de la mort ? Les cendres, pas la terre, les cendres. Et c'est exactement ce qu'on va prendre. Donc, on a pris le côté animal, on a pris le côté végétal, on a pris le côté minéral, on a pris les parenthèses les plus lointaines de l'histoire de l'homme sur Terre, et on va tout mettre dans un paquet, on va tout brûler en dehors du camp du Echal, ça va devenir des cendres, et on va jeter ces cendres dans l'eau vivante, dans de l'eau de vie. Et une fois que ces cendres ont touché l'eau, il se passe quelque chose qu'on ne comprend pas. on va rentrer sa main et on va jeter comme ça sur les gens. Même si ça te touche, ça te touche pas, c'est fini, c'est plus grave. C'est sorti de l'impureté de la mort. Pas extraordinaire, ça. Magnifique. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Regardez, maintenant, il fallait aller chercher que ces éléments, parce que la Torah, quand elle te dit, tu fais pas attention. Mais quand tu te dis, maintenant, attends, viens, viens, on va scruter un petit peu. D'un côté, j'ai un très gros animal, de l'autre côté, j'ai un ver de terre. Il n'y a pas quelque chose, là? Oui. C'est comme ça qu'on étudie la Torah, Rabotai. Et là, tu vois qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu nous dit, prends toute ta vie entière. Remets-toi à zéro. On va faire un reset. Tu vas te mettre en quarantaine. Tu vas arrêter tous les mouvements de ta vie. On va te confiner. Tu vas devenir confiné. À zéro. Et ferme-la un petit peu. On t'entend trop. Ferme-la un petit peu, tais-toi. Je veux un petit peu de silence, j'ai envie d'entendre les oiseaux. Ça fait longtemps que je ne les ai pas entendus. J'ai envie d'entendre les arbres. Et là, on entend, on commence à entendre des choses qu'on n'entendait plus. Vous n'êtes même pas capable de rester chez vous 10 minutes sans silence. Il faut toujours une télé allumée, une radio, un machin pour qu'il y ait du bruit. Vous avez peur de vous rencontrer. Et là, on est obligé maintenant. Eh bien, ça, c'est un événement qui annonce qu'après ce silence, va arriver la belle lumière, la grande lumière, à condition qu'on ait compris la leçon. Parce que si on se la fermait pendant 15 jours, et après, dès qu'on l'ouvre, ça devient l'aïstal, une bouche d'égout, ça sert à rien. L'étape que tu viens de traverser, il faut qu'elle te serve de leçon de vie, d'humilité, de savoir qu'il y a ici un dirigeant, de savoir que tu ne peux pas t'inventer une Torah, que la Torah c'est ce qui est écrit, tu ne peux pas faire autrement. Donc arrêtez d'inventer des choses, essayez d'être aimé. Vous savez, pendant la Shoah, il y avait des gens qui ne disaient pas certaines phrases dans les prières. Par exemple, les Allemands amenaient des gens à travailler dans les champs, des hommes, et ils faisaient une phrase pendant que les Allemands étaient assis. Et dans le Ashrei Yoshve Betecha, il y a des phrases qui louent Akadosh Baruch Hu. Gadol Hashem al kol rachamav al kol ma'asav. Il ne disait pas ça. Il dit Akadosh Baruch Hu, pour l'instant je ne vois pas ta grandeur. Je suis en train de souffrir, je vais peut-être rentrer dans un four dans un quart d'heure. Est-ce qu'ils avaient le droit de faire ça? Nous disent les Chachamim, c'était des gens de Emet. Et c'est le Sanhedrin, c'est une Gemara, même pour Réchet, qui dit que même Jérémie a fait cette chose-là, et Daniel a fait cette chose-là, quand il a vu que la grandeur de Dieu n'était pas assez manifestée dans ce monde, il s'est dit à Kadosh Baruch Hu, avec tout le cabot que je te dois, je ne peux pas dire des choses que je ne vois pas. Et le Sanhedrin de l'époque disait, ils ont raison. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Dieu aime la vérité. Alors, c'est pas évident. On n'a pas, nous, le droit d'enlever des passages. Mais c'est juste pour vous dire qu'on doit un tout petit peu, quand même, revenir à une vérité et à une authenticité. Et quand tu dis un mot, sois dans le mot que tu dis. Ne jette pas des trucs. Quand tu enseignes la Torah, sois dans ce que tu enseignes. Ne jette pas, le rabbin il a dit comme ça, et l'autre il a dit comme ça. J'ai pas besoin de toi, je rentre sur Facebook, c'est tout marqué. Donc il faut qu'on redevienne, Be'ezrat Hashem, beaucoup plus vrai. Et nous sommes dans une belle époque malgré tout. Il faut le voir, il faut ouvrir les yeux et prier pour que nos frères et nos sœurs arrivent à nous rejoindre ici en terre d'Israël le plus tôt possible. Pour redevenir, Be'ezrat Hashem, un véritable peuple qui est en train de faire la volonté d'Hashem sur terre.
Comment tu peux nous expliquer, monsieur? Je trouve que tu nous expliquais, mais par contre, le Kohen Gadol devient impur quand il met les gens purs,
Nahol. Tout simplement parce que, là je ne suis pas rentré dans la notion de Kabbalah, dans la notion de Kabbalah, il y a 10 sphères. La plus petite des sphères, c'est la Malchut. La Malchut, elle n'a rien d'elle-même. Si elle considère que le fait de ne rien avoir d'elle-même, ça la met dans une position minable, elle est impure. Mais si elle comprend que, justement parce qu'elle est la plus basse de toutes, elle a la capacité, parce qu'elle est tellement humble et qu'elle n'a rien d'elle-même, elle est capable de monter jusqu'au plus haut niveau, elle va être génératrice de vie. C'est comme ça qu'on explique ça, et c'est le Ramchal qui explique ce secret. Voilà. Toda Rabba Lachem.